Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre sur Pluriel Gay. Merci Bernard.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à notre invité.
Voilà, alors tu n'es pas sans ignorer, mon petit Bernard, que l'Euro de foot va commencer après-demain.
Ah ben ça, avec tous les drapeaux qu'il y a dans la ville, ouais. C'est certain.
Ouais, puis on en entend un petit peu parler, je crois, dans les médias, il me semble.
Tu crois?
Ouais. Alors, justement, l'Euro a donné, peut-être servi de prétexte, je ne sais pas si c'est le cas, un colloque qui va avoir lieu la semaine prochaine, qui s'appelle Sport, Discrimination, Homophobie. On rappellera les dates et les lieux. Bon, on peut déjà dire que ça sera la semaine prochaine à la Doua, au 15 et le 16 juin. Et je reçois un des intervenants du colloque que j'ai déjà reçu ici à l'émission, qui n'est pas un inconnu. Nous avions déjà fait une émission consacrée au sport LGBT. Et Philippe Lyotard, ici présent, enseignant à Lyon 1 en sociologie et en anthropologie, qui est déjà venu. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, donc, le grand événement, en fait, ce n'est pas l'Euro de foot, c'est le colloque, alors, en tout cas chez nous, de la semaine prochaine. Le colloque, comme je disais, sport, discrimination, homophobie. Alors déjà, pour commencer, est-ce que Philippe, vous pourriez nous informer de qui sont les organisateurs, en fait, qui sont les organisateurs du colloque ?
Alors, les organisateurs, c'est d'abord une institution, puisque c'est le laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport.
Ouais.
Un laboratoire qui est créé au sein de l'Université Lyon 1, donc un laboratoire spécialisé sur les questions sportives, avec des approches en sciences humaines et sociales. Donc, il y a des psychologues dans l'équipe, des sociologues, des historiens, des économistes, des juristes. Voilà, on est une équipe diverse. Et là, c'est une réflexion qui se mène plutôt dans la continuité de travaux qu'on a déjà menés, puisqu'on avait monté un colloque il y a 10 ans, en 2006, déjà, sur la question des identités et de l'homosexualité dans le sport et de l'homophobie. Et c'est un petit peu l'occasion de faire un état des lieux 10 ans après, puisque en 2006, c'était un petit peu novateur comme événement. Et puis là, effectivement, donc l'équipe mise d'accord pour faire ce moment de réflexion à 2 ans d'un autre événement qui va avoir lieu dont vous n'avez pas parlé, qui est le Paris 2018, c'est-à-dire les Gay Games dont on parlera tout à l'heure. Ouais. Donc c'est vrai que les organisateurs, c'est un laboratoire de recherche et notre préoccupation, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la société en matière de sport, et sans se résoudre et se résumer et se réduire à la question du sport de haut niveau et notamment à la question de l'Euro en ce moment.
Une question, est-ce qu'il y a des publications liées au laboratoire de recherche?
Oui, bien sûr, oui, il y a des publications. Alors, pour l'instant, le laboratoire est récent, c'est-à-dire que c'est un laboratoire qui résulte d'une modification de l'ancien laboratoire. Donc ce laboratoire, tel qu'il existe aujourd'hui, pas encore, on a été en place en janvier, mais il y a beaucoup de publications produites par les différents chercheurs du laboratoire, les différentes chercheuses. Sur la question qui nous préoccupe, il y a un petit ouvrage qui s'appelle « Sport et homosexualité » qui est paru en 2008. Puis nous avons tous et toutes donc un certain nombre d'ouvrages. Je vous invite à aller voir sur le site qui s'intitule l-vis.univ-lyon1.fr où là vous aurez chercheurs et chercheuses par chercheur et par chercheuse. Pour tout le monde, vous aurez de quoi voir ce qu'on fait et ce qui est publié.
Alors moi j'ai pris connaissance un petit peu du programme avant pour préparer l'émission et une chose m'a frappé d'abord, c'est qu'en fait lorsque on entend colloque, on a l'impression que c'est assez didactique, mais en fait, c'est quelque chose de très dynamique, puisque je vois qu'il y a des ateliers, par exemple. On ne sera pas automatiquement le public face à des intervenants. Il y aura quand même une interaction avec le public et les intervenants.
Alors tout à fait, ça c'est un choix que j'ai fait en tant qu'organisateur en fait. Il y a différentes façons de faire des colloques. On peut faire des colloques où justement on est plutôt sur des conférences ou des communications qui se font les unes après les autres. Alors il y aura quelques conférences en début de demi-journée, mais y compris pour les conférenciers, la question se pose de faire des conférences qui sont plutôt de synthèse et de questionnement pour inaugurer le travail des ateliers qui va suivre. Et dans les ateliers, ce qui va être proposé, ce sont des interventions courtes par un certain nombre de personnes qui sont ou bien des chercheurs et des chercheuses qui ont travaillé sur des questions en lien avec notre colloque, donc ou bien sur les discriminations, ou bien sur la question d'un sport inclusif, ou bien sur la question du foot et de l'homophobie. Donc on a plusieurs thématiques comme ça. Et à partir de là, l'idée de l'atelier, c'était vraiment pour qu'on ne soit pas dans un format universitaire au sens, je dirais, classique du terme. Donc c'est vrai qu'on va être plutôt sur une démarche d'échange qui fait que même si on n'est pas intervenant dans l'atelier au sens où on n'a pas une communication prête, on peut tout à fait intervenir. Et notamment, je ferai attention puisque je vais animer les différents ateliers. C'est aussi un choix qui a été fait pour essayer justement de dynamiser avec une forme de questionnement des différents interlocuteurs, mais aussi des gens du public qui sont prêts à réagir. Et même pas du public, parce qu'en fait, on sera, je dirais, d'une certaine manière, à peu près tous au même niveau, même si on n'est pas tous au même endroit. Par exemple, certains seront peut-être devant un micro, mais le micro circulera dans la salle, et ça, c'est vraiment un projet d'organisation auquel je tiens.
Vous devez venir ce soir avec Yannick Chavin,
oui.
qui est organisateur, qui a
surtout, bien sûr, qui organise, oui.
Ouais, qui est organisateur, et puis qui a aussi organisé la communication autour de l'événement, a-t-il dit. Bon, il peut pas être là ce soir, et donc Yannick est étudiant en psychologie sociale
à Lyon 2.
À Lyon 2, voilà. Et donc, il est en train de faire préparer un mémoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas pu venir ce soir. Son mémoire n'était pas encore bouclé.
Il est en bouclage, oui, phase de bouclage. S'il nous écoute, je le salue et je lui souhaite beaucoup de courage parce que là, il doit être en stress complet.
Donc, un mémoire de Master 1 sur le sport, la représentation sociale du sport. Et il s'est servi comme prétexte, peut-être, c'est un peu ce qu'il m'a dit en tout cas, des Gay Games.
Mmh.
Voilà. Alors, les Gay Games, c'était un petit peu justement le prétexte pour son mémoire sur le sport, la représentation sociale. Et du coup, le colloque lui-même utilise les Gay Games comme pivot, en fait, de toute la réflexion autour de sport, représentation sociale dans le sport, etc. Alors, on sait, comme vous le rappeliez, Philippe, que Paris accueillera les Gay Games, a été donc choisi par les organisateurs des Gay Games pour organiser donc les Jeux 2018 en la capitale de la France. Les Gay Games, alors est-ce que déjà, pourriez nous rappeler ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas?
Alors, avant de rappeler ce que c'est, je vais expliquer comment est organisé le colloque. C'est-à-dire qu'il y a deux journées en deux temps, donc, avec deux temps consacrés à deux thématiques. La première qui est liée à la question des discriminations et de la manière dont on peut construire un sport inclusif. Et on prend comme point de départ à la réflexion les Gay Games, donc ces jeux sportifs gays et lesbiens, dont je vais parler juste après. Et la seconde journée sera, elle, consacrée à la question de l'homophobie dans le football. C'est-à-dire qu'on est parti vraiment de deux événements sportifs, les Gay Games, pour la première journée, et le football, notamment l'Euro, ouais, qui donne une grande couverture médiatique en ce moment, et associé à tout ce qui va autour, les enjeux financiers, les questions de grève, etc. Et puis nous, du coup, on va l'aborder du côté de l'homophobie, ce qui sera peut-être pas fait par tout le monde. Alors, ceci étant dit, donc le colloque étant organisé en deux temps, pourquoi on a pris les Gay Games? Eh bien, d'abord parce que, en tant que sociologue, c'est un analyseur remarquable pour comprendre le fonctionnement du sport. Ces Gay Games ont été créés en 1982 par un décathlonien, Tom Waddle, un médecin. Il a été médecin, il a été décathlonien, il a fait les Jeux Olympiques de Mexico. Et donc, il a été finaliste, il a fait sixième en décathlon, ce qui est donc une très bonne performance. Et en 1968, à Mexico, il avait aux côtés de lui des athlètes noirs qui se sont fait connaître en manifestant, en refusant de chanter l'hymne national, le poing levé, ganté de noir.
La fameuse image qui a
fait
la
fameuse image que tout le monde connaît quand on regarde 1968 Mexico, vous tapez sur Google l'image, c'est la première image que vous avez. Et donc Tom Waddle est dans cette équipe. Il est totalement solidaire de ses camarades noirs politiquement, il est très très proche d'eux. Et il se dit à ce moment-là, mais moi qui suis homosexuel, je ne pourrais jamais revendiquer comme eux pour les droits de la communauté gay et lesbienne. Et puis il fait un chemin comme ça, et donc en 1982, donc 14 ans plus tard, il va créer les Gay Games à San Francisco, qui est en fait un outil pour lui, un outil de militantisme à des fins éducatives. L'idée étant d'éduquer à la fois la population américaine pour dire les homosexuels sont des gens comme les autres, ce sont des gens qui sont qui peuvent faire du sport, qui peuvent être fréquentables, etc. Et puis en même temps, travailler pour l'éducation de la communauté elle-même en travaillant immédiatement sur la diversité de la communauté. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des blancs, il y a des noirs. Et donc, il va avoir comme ça une attitude très didactique et éducative par le sport. Et immédiatement, et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon élément pour analyser le fonctionnement du sport, immédiatement, Tom Waddle va poser des valeurs à partir desquelles les jeux vont être organisés. Ces valeurs sont au nombre de trois: l'inclusion, la participation et le meilleur de soi. C'est-à-dire que ces valeurs vont permettre de faire des choix réglementaires, par exemple, qui vont proposer une autre façon de jouer tout en respectant les manières de jouer ordinaires du foot. Je m'explique. Le fait de dire que l'inclusion est la valeur première, ça se comprend quand on veut travailler pour une population qui est exclue, qui est discriminée, qui est objet de violence, homophobe. Ça se comprend d'autant plus au début des années 80 que émerge le sida, qui touche en grande partie la communauté gay, qui est mortelle. Il n'y a pas de traitement, donc il y a quelque chose qui là aussi va surexclure les personnes qui sont à la fois homosexuelles et porteuses de maladies, porteuses du VIH mais qui en meurent. Et donc Tom Waddle va se dire d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le sport soit inclusif et non pas excluant. Et une des premières décisions qui va être prise, c'est de dire qu'on ne fait pas de sélection. Tout le monde peut participer. On n'est pas obligé de faire un niveau de pratique particulier. Et ça, déjà, vous voyez, quand je dis ça, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui disent « mais c'est pas du sport ». Parce que l'image qu'on a du sport, c'est nécessairement l'image du sport compétitif, performant, qui fait que dans un événement international, on ne rassemble, on ne retient que les meilleurs. Donc là, a priori, Tom Waddle dit qu'on peut tous participer, ceux qui le désirent, les hommes, les femmes, les gays, les lesbiennes, les trans, les hétéros. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de se retrouver ensemble pour, c'est la première chose, se retrouver ensemble, inclure tout le monde pour participer. Deuxième valeur, la participation. Et à partir du moment où on est tous ensemble, la troisième valeur prend son sens, donner le meilleur de soi. Le but, c'est pas d'être meilleur que l'autre. Puisque, par exemple, si on fait une compétition face à une personne, si j'ai 30 ans, que je suis en pleine force de l'âge, 30, 35 ans, et que je fais une compétition à côté de moi, il y a une personne de 60, 70 ans, je ne vais pas chercher à la battre, elle ne va pas chercher à me battre. Chacun est ramené à son propre rapport à la performance, et chacun va donner le meilleur de soi. Donc, cette configuration du sport va être complètement originale, même si elle s'inspire complètement, en même temps, des Jeux Olympiques, qui, eux, ont une visée de performance. Parce que dans le même temps, les règlements sportifs sont les règlements des fédérations internationales.
Alors, les Jeux Olympiques, ça me fait songer que donc, c'est Pierre de Coubertin qui a remis les Jeux Olympiques à l'honneur à la fin du 19e siècle. Et il disait l'essentiel, c'est lui, je crois qu'il a dit l'essentiel est de participer. C'était un peu l'esprit des Jeux Olympiques au départ.
Alors c'est vrai que les Jeux Olympiques modernes, tels que Pierre de Coubertin les a, on va dire, formalisés, et par rapport aux valeurs qu'il a écrites, hein, qui se synthétise dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'olympisme, hein. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui s'en rapprochent. C'est-à-dire que Pierre de Coubertin, par exemple, pour lui, les Jeux Olympiques n'étaient pas une compétition entre nations. C'était une compétition entre athlètes. Et donc, ce qui comptait, ce n'était pas d'être français ou allemand, c'était de s'engager soi-même. Autre élément, par exemple, c'est que pour de Coubertin, la spécialisation est une hérésie. Le fait de se spécialiser, de s'entraîner pour être le meilleur dans une épreuve, ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est de pratiquer un grand nombre d'épreuves différentes. Et donc on voit bien que là, il y a une rupture avec l'olympisme et les Jeux Olympiques tels qu'ils se sont constitués et comment ils ont évolué. Au Gay Games, il y a cette idée aussi qu'on peut participer. Mais du coup, participer, ça veut dire que je peux participer aussi à différentes épreuves. Je peux m'inscrire en natation, en volleyball et puis en athlétisme. Et si je m'inscris en volleyball, en natation, en athlétisme, je ne pourrais pas être très bon partout. En revanche, peut-être que je suis un nageur, que j'ai des amis qui jouent au volley avec qui j'ai envie de jouer, et puis je fais de l'athlétisme parce que c'est l'occasion peut-être de courir avec ma mère qui m'a accompagné au jeu. Vous voyez, donc c'est tout ça qui est intéressant dans cet événement. Et du coup, on le prend comme point de départ dans le cadre du colloque. On va prendre ça comme point de départ pour interroger d'autres secteurs, le secteur de l'enfance, le secteur du sport qu'on va appeler du sport travailliste, par exemple. Toutes les pratiques sportives qui peuvent réglementairement avoir une certaine souplesse et donc décider des règles du jeu en fonction des objectifs qui sont les leurs.
Donc, des ateliers, des conférences, dont vous êtes un des intervenants et animateur aussi des ateliers. Il y a d'autres intervenants, je vois, il y a un certain nombre de personnes. Donc, quel est l'horizon, d'où viennent-ils tous ces intervenants ?
On a différents types d'intervenants. On a d'abord quelques chercheurs et chercheuses qui vont nous rapporter leurs travaux. Alors, des travaux qui portent ou bien sur l'organisation d'un club sportif, ou bien sur l'engagement bénévole, ou bien sur l'homophobie, par exemple, à l'université, puisqu'on a un petit travail qui a été fait chez nous à l'université Lyon 1 sur les étudiants et les étudiantes qui sont en formation chez nous, des réflexions sur l'homophobie dans le football, là aussi on a un certain nombre de choses. Donc on a plusieurs intervenants qui s'interrogent, par exemple, à la fois sur la spécificité et l'intérêt de clubs sportifs gays et lesbiens, et puis des interactions qu'il y a entre ces clubs sportifs gays et lesbiens et le monde sportif ordinaire. Par ailleurs, on a, outre ces chercheurs, on a des acteurs du sport. Des acteurs du sport qui vont, par exemple, travailler au sein d'une fédération comme l'UFOLEP, et qui vont rapporter la façon dont, en tant que membres de cette fédération, ils ont réfléchi à la question de la diversité, de la discrimination, etc. et comment ça a eu un impact sur l'organisation même de leur fédération. Un peu d'ailleurs comme les Gay Games, puisque dès le début des Gay Games, Tom Waddle a institué une coprésidence avec un homme et une femme pour ne pas reproduire l'ordre sportif, qui est un ordre essentiellement masculin, avec des hommes qui ont le pouvoir et puis des femmes qui font les petites mains dans les fédérations, elles sont au secrétariat, elles servent le café, etc. Donc ça fait partie des choses qui ont été posées. On a aussi des gens qui travaillent dans le monde du sport, mais du point de vue de l'État, avec par exemple des présentations de ce que fait l'État, notamment en Seine-Maritime. Mais on aura aussi des représentants du centre de ressources d'Aix-en-Provence, qui est spécialisé sur les questions d'éducation, de mixité, de société, on va dire globalement, le SEMC d'Aix-en-Provence. On aura également des personnes qui travaillent sur l'éthique dans le sport. Donc on a voilà, des gens qui sont à la fois des acteurs de terrain, à la fois des scientifiques et puis des militants. C'est-à-dire qu'on aura vraiment ce triple croisement avec des militants du secteur associatif gay et lesbien qui sont engagés sur les questions ou bien du sport gay et lesbien avec la fédération sportive gay et lesbienne, avec la fédération européenne du sport gay et lesbien, avec Paris 2018. Et puis des gens qui sont dans le monde sportif et qui travaillent à, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais à défendre et à diffuser des valeurs du sport qui sont des valeurs éducatives, respectueuses de la diversité.
Alors, pour reprendre un point un peu plus général, je dirais, sur le sport gay et lesbien, une réflexion qu'on se fait souvent, alors on comprend bien les motivations qui ont permis l'existence des clubs LGBT ou des gay games. Mais vous n'êtes pas sans savoir, Philippe, que l'une des premières choses, enfin, les détracteurs, s'il y en a, ou ceux qui ne sont pas toujours bien d'accord avec ce genre de le fonctionnement des clubs LGBT, qui peuvent être parfois eux-mêmes des LGBT, disent souvent, mais le club LGBT, une des premières choses qu'on jette en pâture, évidemment, c'est le communautarisme, qui est un gros mot en France, évidemment, on le sait. Donc, c'est le spectre du communautarisme, racine de toutes les dérives radicales. Donc, le sport LGBT, pourquoi le sport LGBT, c'est communautariste. On entend dire aussi, mais pourquoi se retrouver entre nous, et ça on l'entend souvent, ou entre vous, pourquoi vous retrouvez-vous entre vous ? Et là, ça devient de l'entre-soi, comme on dit. Comme si on était des handicapés, par exemple, et qu'il nous fallait une catégorie spéciale pour jouer, pour faire du sport, pour montrer ce qu'on peut faire. Voilà, est-ce que ça veut dire que, ben, par exemple, justement, les clubs LGBT, pour certains, ça peut être aussi quelque chose un peu de l'ordre du folklore et pas vraiment à prendre au sérieux ? Ça fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on entend de la part de ceux qui sont opposés ou qui ne sont pas trop chaud pour ce genre de choses.
Alors, bon, déjà, je voudrais faire un rappel historique. Les associations, qu'elles soient LGBT ou autres, sont des associations qui relèvent de la loi dite de 1901. Cette loi, c'est la loi de libre association, qui fait que les gens qui s'associent sont des gens qui partagent un intérêt commun. Et donc, si on considère que les gens qui s'associent autour d'un intérêt commun développent ce qu'on appelle le communautarisme, alors nous sommes envahis de communautarismes très divers. Et qu'on va retrouver quasiment à chaque fois qu'on voit une association. Si je fais mon association de quartier, je fais du communautarisme avec les gens du quartier. Même si mon association de quartier, je la fais dans le 6e arrondissement de Lyon ou dans le 16e à Paris. À partir du moment où je me crée en association, je crée un rassemblement de personnes qui partagent un intérêt, des valeurs et un projet commun, un objectif commun. Donc à partir de là, déjà, je vois pas où est le problème, en tout cas le problème par rapport à cet idéal de l'association, de la libre association, qui est celle dont on dispose en France. Et je pense qu'on devrait être relativement content que tout le monde puisse se rassembler en communauté. Alors, ce qui pose problème, en revanche, c'est pas la question de... C'est pas ce que je viens de dire. Ce qui pose problème, c'est que... Et ça, c'est vraiment un problème intéressant pour le sociologue et intéressant au plan politique. C'est que ce qui pose problème quand on parle de communauté, c'est le rassemblement de groupes ou de personnes qui sont perçus comme des communautés par des personnes qui, elles, sont en position de domination et qui sont en position de pouvoir et qui ne comprennent pas, par exemple, que des homosexuels, que des Nord-Africains ou des Africains, que des femmes s'organisent entre eux ou entre elles. Pourquoi ? Parce qu'il existe déjà d'autres structures qui seraient par défaut ouvertes à tous et à toutes. On s'aperçoit que c'est pas vrai. On peut très bien se regrouper parce que justement, on considère, et c'est le principe même de la libre association, on considère que le club de foot de Saint-Priest n'est pas forcément celui dans lequel je m'amuse le plus et j'ai plutôt envie de faire un club avec les gens de mon quartier ou avec les copains. Et du coup, je vais me rassembler avec mes amis qui sont pas forcément, et ce rassemblement ne se fait pas forcément dans une logique communautaire, mais vu de l'extérieur, on va dire, regardez-les, ceux-là qui se rassemblent entre eux. Donc ça, c'est un premier point aussi à questionner. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de communautarisme à partir du moment où on voit des gens qui se ressemblent s'assembler ? Et qui parle de communautarisme ? C'est ça, en fait, la question qui se pose. Qui parle de communautarisme ? Moi, je vois beaucoup, beaucoup, par exemple, de communautarisme dans le monde sportif, dans la gouvernance du monde sportif. Quand je vois, par exemple, une réunion du CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif, je vois une communauté d'hommes blancs, assez âgés, en costume cravate. De l'extérieur, ça me fait tout de suite bondir et je me dis, mais c'est quoi ce communautarisme des gens qui se ressemblent et qui s'assemblent entre eux? Bon, on voit bien que là, je fais de la provocation, mais cette idée-là, c'est ça qu'il faut questionner. C'est qu'est-ce qu'on désigne, en fait? Qu'est-ce qu'on veut critiquer? Qu'est-ce qu'on veut discréditer quand on parle de communautarisme? Parce que là, on a une fonction rhétorique, en fait, du langage. Alors maintenant, la question que vous posez à un autre niveau. Pourquoi nous nous réunirions entre nous? Pourquoi vous joueriez entre vous? Eh bien, là encore, je répondrais pourquoi pas d'abord. Pourquoi pas? Mais... c'est pas tellement ça la question. La question, c'est pourquoi les clubs sportifs gays et lesbiens se sont-ils organisés historiquement ? Eh bien, d'abord, en France, historiquement, ils se sont organisés pour pouvoir préparer la participation aux Gay Games. Donc, cette organisation s'est faite dans la perspective de se retrouver à quelques-uns pour aller aux États-Unis faire les Gay Games. Donc voilà, déjà, il y avait un objectif précis. Et il se trouve que dans les années 80, les gens qui voulaient aller aux Gay Games étaient majoritairement des homosexuels, enfin, exclusivement même. Donc la question ne se posait pas de savoir si on allait prendre des gens autour de nous pour ne pas être étiquetés de communautaristes, mais les gens qui ont voulu y aller se sont organisés. Ensuite, il y a quand même un aspect militant, et c'est peut-être ça qui gêne dans la désignation du communautarisme. C'est que un certain nombre de structures sportives gays et lesbiennes se sont organisées pour faire de l'engagement sportif un moyen de la dénonciation de l'homophobie dans la société en général et dans le sport en particulier. Donc effectivement, à partir du moment où on dénonce quelque chose dont on est victime, ça dérange. Mais au même titre que dérange, par exemple, des associations de défense des minorités visibles, on va dire. Ça dérange. De même façon que ça va déranger si une communauté religieuse s'organise pour lutter contre, je sais pas moi, l'antisémitisme ou l'islamophobie. Donc voilà ce qui pose problème, c'est le projet politique qui peut être porté par certaines associations. Pour continuer sur le pourquoi se rassembler. Et c'est là qu'il y a des discussions. Il n'y a pas non plus d'unité. Tout le monde n'est pas d'accord. sur les moyens de défendre une position sociale, de défendre une lutte, enfin de lutter contre la discrimination. Et puis, on peut avoir, bien sûr, des positions personnelles différentes. On peut être homosexuel, jouer au basket, et ne pas avoir envie de jouer au basket qu'avec des homosexuels. On peut être, en revanche, on peut être athlète de très haut niveau et être inscrit dans les compétitions les plus élevées. Et puis, venir aussi au Gay Games, parce que là, on a envie, à un moment, dans un autre registre, d'être dans un échange, je dirais, une sociabilité différente. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une diversité, une pluralité. Et dans les clubs sportifs gays et lesbiens eux-mêmes, qui sont rarement exclusivement gays et lesbiens, même s'il y a une dominante, une majorité, bien sûr, de personnes homosexuelles, mais même dans ces clubs, il y a des gens qui viennent pour des raisons différentes. Et par exemple, la question se pose d'aller vers la compétition, où là, on va montrer qu'on est des vrais sportifs ou des vraies sportives, en étant inscrits dans les compétitions fédérales de football, de natation ou autre, d'athlétisme. Et puis, celles et ceux qui viennent plutôt pour le plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble, et qui ne se préoccupent pas de savoir si à la fin de la saison, ils vont monter d'une catégorie dans le championnat de foot de district de l'Hérault ou du Rhône.
D'accord. Alors, néanmoins, je pourrais, pour jouer un peu les avocats du diable, un petit peu, je dirais, en ce qui concerne les gay games, ça c'est pour revenir un peu au point de départ, sur les fondements même des valeurs, les valeurs que représentées par les gay games. Quand même, aux gay games, il y a volonté quand même de performance individuelle ou collective, puisqu'il y a des podiums au Gay Game, il y a des médailles, donc il y a des gens qui cherchent quand même à gagner un trophée, on est d'accord. Donc il y a quand même une valeur de compétition, tout de même des valeurs de compétition, on n'est pas là que pour le fun, pour s'amuser, puis on s'en fout si on ne monte pas sur le podium.
Ah bien sûr, mais il y a une compétition. En fait, c'est ça qui est ce que je trouve intéressant, c'est que dans des compétitions organisées dans le cadre des Gay Games, mais il n'y a pas que les Gay Games. Hein. Je pense que ça se trouve aussi, par exemple, dans un certain nombre de compétitions scolaires organisées par l'UNSS ou d'autres structures de ce type. Il y a bien sûr un niveau compétitif qu'on retrouve, mais il n'y a pas que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut choisir quel est le niveau d'engagement qu'on va avoir. Quand je prenais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui va pratiquer différents sports, si je suis spécialiste en natation, effectivement, je vais me faire plaisir à me coltiner avec d'autres nageurs en essayant de les battre, surtout si on est d'un niveau proche. Ça fait partie du jeu. Mais le but, c'est pas celui-ci. Le but, c'est pas seulement d'être premier. Quand je prenais l'exemple tout à l'heure de se mesurer avec des personnes qui sont vraiment différentes de nous, ça modifie complètement le rapport à la performance. Et c'est ça qui est important. Et je vais pas chercher, par exemple, à aller plus vite que quelqu'un qui est en fauteuil. Donc là, il y a des choses qui sont très surprenantes en tout cas qui surprennent les sportifs, parce que quand j'en parle avec mes étudiants qui sont étudiants à la faculté des sports, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas qu'on soit pas uniquement motivé par le fait de vouloir être le premier ou être meilleur que l'autre. Donc voilà, ça existe. En même temps, il y a des podiums, il y a des catégories d'âge, de poids, etc. Mais ce qui compte surtout, il me semble, pour avoir un petit peu observé et questionné des participants et des participantes, ce qui compte surtout, c'est le fait d'être là ensemble. Et peut-être la meilleure médaille, c'est peut-être pas la médaille d'or, la médaille de bronze, mais c'est la médaille de la participation. Et je pense que là, ça se joue vraiment. Et on voit, par exemple, on peut pas le comprendre quand on, si on est, enfin comment dire, là on est à la radio, mais si on a des images d'Usain Bolt sur un stade, si on a des images de championnat d'Europe de football, on ne peut pas imaginer ce que ça peut représenter de jouer, quand on joue, en étant à fond pour la victoire, sans que la victoire soit la préoccupation première. Je sais pas si...
Oui, oui.
C'est-à-dire que je joue, j'y suis à fond, je suis mauvais, mais je vais tout faire pour gagner ou pour pas perdre d'écart. Mmh. Mais en fait, je sais bien que c'est pas là le but de gagner. Le but, c'est d'être là et de bien m'amuser.
Ouais.
Et si je suis premier ou deuxième ou troisième, eh ben tant mieux. Mm. Si je suis quatrième, ben je me dirais pas que c'est la place du con.
Alors, c'est vrai qu'on parlait d'image, on est à la radio. Mais moi, j'en ai une image des Gay Games. C'est au Gay Games de New York. Il y a eu une compétition, donc c'était une course de relais, je crois, et participait notamment une personne donc malade du sida, qui était condamnée, de toute façon, qui le savait, et qui a participé à l'épreuve, et qui est arrivé fin dernier, parce qu'il était à bout de souffle, mais elle est arrivée complètement épuisée, très très en retard sur tout le monde, mais il y a tout le stade qui s'est levé, qui l'applaudissait alors qu'il était dernier. Et c'était donc, il était. C'est vrai que c'est l'image que j'ai vue, qui m'a le plus marqué des Gay Games, je dirais. Oui. Voilà. C'est une bonne image peut-être qui peut illustrer votre propos.
Alors oui, alors c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un bon outil, et c'est un outil que j'utilise vraiment pas dans une logique. Enfin, c'est pas ma position, c'est pas mon propos, dans une logique militante LGBT. Elle existe, cette logique militante. Je l'utilise vraiment dans une perspective analytique. Oui. Alors, quand je fais des conférences, des colloques, quand je suis invité parfois à discuter du sport dans le milieu sportif ordinaire, je prends très souvent l'exemple des Gay Games, ne serait-ce que pour une chose, pour montrer au monde sportif qu'à un moment donné, si on veut vraiment adapter une pratique à un discours et à des valeurs, on peut toujours changer quelque chose. Et ça ne dépend que de soi. Alors ça ne dépend pas, en revanche, des fédérations sportives qui, elles, sont organisées par la compétition. Mais à partir du moment où on s'organise autrement, on peut tout à fait jouer ensemble. Et c'est peut-être ça l'axe premier, le fait de pouvoir jouer ensemble.
Bon, ça ne sera pas le mot de la fin. Nous nous retrouvons après la petite pause musicale que nous avons prévue. Et après, on reviendra sur la deuxième journée. Qui est consacré à l'homophobie dans le foot, ou le foot et l'homophobie. En attendant, on va écouter Freddie Mercury, Queen, qui lui va nous parler de cyclisme. Si Bernardo le veut bien, bah, non, réveille-toi. La sieste, c'est l'après-midi qu'il faut la faire. Bicycle, 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 voilà, I want to ride my bicycle.
I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Voilà, c'est donc Freddie Mercury qui veut rouler en bicyclette et le reste, peu importe. Donc, on va revenir avec Philippe Yotard sur ce colloque qui se tient donc le 15 et le 16 juin. On rappellera, on donnera plus de détails à la fin de l'émission en ce qui concerne le lieu, etc. La deuxième journée, on l'a dit, est consacrée plus spécifiquement au football, à l'homophobie. Alors, ça s'intitule même « Football, éducation et homophobie ». Alors, c'est vrai que lorsqu'on est gay, quand on entend parler de football, on associe tout de suite à homophobie. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais quand on est homo, c'est tout de suite associé à homophobie. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a l'image en premier qui nous vient à l'esprit. D'abord, c'est les supporters qui ont toujours un langage très fleuri, hein, n'est-ce pas ? Alors, ça fait penser, il suffit d'aller dans les stades, hein, d'écouter un petit peu les chansons des supporters dans les copes. Moi, ça me fait penser, par exemple, lorsque Valbuena a quitté l'OM après sa petite transition par la Russie, est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Lors des matchs de l'OM contre l'OL, on avait les supporters emmenés par leur capitaine de supporters et qui disaient, qui assénaient Valbuena, c'est un PD, Valbuena, c'est un PD. Ça, on l'entend régulièrement. Ou Saint-Étienne, c'est des PD. Saint-Étienne, c'est des PD. Ça fait partie du vocabulaire classique du supporter. Voilà ce que évoque le football pour un gay. De l'homophobie partout, ça sointe l'homophobie. Alors, est-ce que c'est un peu une image fausse ou est-ce que les supporters en fait sont représentatifs de ce qui se passe dans le football en général ?
Alors, ils sont représentatifs d'une culture homophobe, c'est évident. Même si quand on les interroge, ils vont dire qu'ils sont pas homophobes, mais de la même façon que les mêmes qui vont jeter des bananes à un joueur noir vont dire qu'ils sont pas racistes, et pourtant ils jettent des bananes. Donc, à l'évidence, il y a une culture homophobe dans le football qui passe effectivement par un certain nombre de traditions, de rituels, d'humiliation de l'adversaire, parce que l'homosexuel, c'est toujours l'autre, hein. Valbuena, quand il était à Marseille, il était homosexuel. Quand il arrive à Lyon, tout d'un coup, il devient hétéro et il devient homo pour les Marseillais. Donc c'est assez drôle aussi, cette fluctuation. Ben, on s'aperçoit que ça renvoie à tous les mécanismes de l'humiliation, de l'injure, de l'insulte, qui ont pour fonction de rabaisser l'autre, en l'occurrence l'adversaire sportif et symbolique. Et pour le rabaisser, ben, on joue sur quoi ? On joue sur sa race, on joue sur son sexe, on joue sur son orientation sexuelle. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans le foot. Et peut-être que le foot fait partie des sports qui a le plus... tricoter avec cette homophobie au point que c'est devenu quelque chose de quasiment ordinaire et que les insultes PD enculé, va te faire enculer, l'arbitre, etc. Mmh. C'est des choses qu'on entend, mais je me demande s'il y a un match où on n'entend pas, quoi.
Oui. Alors, tu vas te boucher les oreilles, Bernard, c'est pas pour les enfants ce qu'on va dire. Et ce qui est aussi un plus incroyable au niveau du sémantisme, je dirais, du champ sémantique du vocabulaire des supporters, c'est que non seulement l'adversaire c'est un PD, mais surtout c'est celui qui se fait mettre. Désolé de le dire, puisque on va penser aux supporters qui vont dire Paris, Paris, PSG, on monte, enculé. C'est celui qui encule, il n'est pas PD. C'est celui qui s'encule.
Bien sûr, oui, mais ça, c'est la symbolique, c'est la symbolique sportive aussi, hein, la symbolique sportive qui fait. Bah, aller mettre le ballon dans le but, ça fait partie, bien sûr, d'une symbolique de la pénétration, ah ouais. La pénétration d'abord des espaces, le fait, en rugby aussi, on va pénétrer la ligne adverse, on fait reculer l'adversaire, on lui fait tourner le dos, enfin, il y a toute la symbolique, bien sûr, qu'on peut retrouver, dans la volonté de montrer qu'on est conquérant, dominant et qu'on s'impose physiquement sur autrui.
Qu'on est des mâles, donc voilà, mâles dominants.
Bien sûr, ça reprend cette symbolique et cette sémantique homophobe, bien sûr.
Alors, est-ce que vous allez aborder, est-ce qu'il est prévu d'aborder cet aspect supporter dans cette journée ou ça sera abordé sur un autre aspect ?
Alors, non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment, parce que bon, d'abord, c'est peut-être ce qu'on connaît le mieux.
Oui.
On a fait un colloque à Paris organisé par la Fédération sportive gay et lesbienne en 2011, si mes souvenirs sont exacts, où justement ça avait été bien abordé, notamment par des Anglais aussi qui avaient fait un travail d'analyse sur les réseaux sociaux, sur les champs, etc. Donc ça, c'est assez connu. En revanche, là encore, comme pour les Gay Games, l'homophobie dans le football, pour nous, c'est un moyen de réfléchir à ce qui se passe du point de vue éducatif. Et la question qu'on pose finalement, c'est qu'est-ce qui fait que l'homophobie joue un rôle éducatif, en fait ? On aura, alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais on aura par exemple, et assez curieusement, les propositions qu'on a eues de travail portent plutôt sur l'homophobie vis-à-vis des femmes dans le football. On a eu personne qui est intervenu, enfin qui a fait de proposition, hein. Ça ne veut pas dire que personne travaille dessus, mais personne n'a proposé de travaux pour analyser l'homophobie dans le sport pratiqué par des hommes. Et ça, c'est déjà intéressant. C'est-à-dire que si on parle d'homophobie dans le foot, on va immédiatement penser aux supporters qui sont majoritairement des hommes et qui vont voir des matchs de foot d'hommes. Et puis, on s'aperçoit que les femmes qui pratiquent le football sont elles-mêmes objets d'homophobie. Elles sont objets de suspicion parce qu'elles font un sport considéré en France comme un sport d'homme. Et donc, à partir de là, elles vont être discréditées dans leur féminité et dans leur orientation sexuelle. Alors, sur la féminité, les clubs rivalisent d'ingéniosité pour que les femmes paraissent féminines. On leur demande de porter les cheveux longs. On leur demande de faire attention à leur apparence sur le terrain et en dehors.
Donc on sait que c'est le cas pour l'OL féminin, bien sûr, d'ailleurs, bien puisque, sûr. Qui brille d'ailleurs par ses résultats.
Mais
on
plus
sait
que les hommes, bien sûr. Bien plus que les hommes, on peut sûr. Le dire.
Mais je veux dire que par là, on sait qu'elles ont des consignes strictes, effectivement, d'afficher une attitude hétérosexuelle, soit par le surplan vestimentaire, soit sur la vie privée.
Elles doivent montrer qu'elles sont des vraies femmes, c'est-à-dire qu'elles s'habillent comme des femmes, qu'elles vont faire attention effectivement à bien construire une apparence qui est en conformité avec les codes de la féminité, on pourrait dire la plus orthodoxe, en tout cas la plus médiatique.
Porter les cheveux longs.
Les cheveux longs, être maquillée, porter des tailleurs, des talons, etc. Et puis bien sûr, se montrer hétérosexuel. Alors, ce qui pose problème pour les joueuses homosexuelles, parce que mais alors il y a des choses qui sont intéressantes dans ce travail collectif d'homophobie en fait vis-à-vis des joueuses. C'est la façon dont, par exemple, on va parler de la famille quand une joueuse est hétérosexuelle et qu'elle a une famille, on parle de sa famille. Et puis une fille qui est homosexuelle, on va pas parler de sa famille parce que du coup ça veut dire qu'on dévoile son orientation sexuelle si elle veut. Il y a au moins quelque chose qui est assez correct en France, c'est que si les personnes ne veulent pas en parler, les journalistes en général sont assez respectueux et n'en parlent pas. En revanche, on va parler de son métier, on va parler de ses projets professionnels après le football, on va parler de tout sauf de la famille. Et c'est un petit peu en négatif un indicateur de la difficulté qu'on a finalement à considérer des joueuses de foot comme des joueuses de foot sans se préoccuper de savoir si elles sont homosexuelles ou pas. Néanmoins, et ça c'est quand même des choses qu'on a obtenues dans les travaux antérieurs, néanmoins, l'environnement sportif apparaît pour les femmes homosexuelles comme un environnement relativement sécuritaire au sens où il y a une sorte de respect, même s'il y a de l'homophobie dans le sport, hein. Je ne dis pas que toutes les femmes lesbiennes qui jouent au basket, au volley, au football ou qui font de l'athlétisme ne vivent pas des situations d'homophobie, je ne dis pas ça, mais en général, les femmes qu'on a interrogées ont tendance à dire que dans le sport, elles sont relativement tranquilles.
Alors que les hommes, je dirais... le football a un côté normatif, que ce soit donc pour les femmes ou pour les hommes, finalement.
Sport a un côté normatif, voilà. Bien sûr.
Et moi, je sais, par exemple, que par ma profession, j'ai souvent des jeunes du centre de formation de l'OL. Et il y a plusieurs choses qui me frappent chez ces jeunes des garçons. La tenue vestimentaire est à peu près identique, tenue sportive, bon, ça peut paraître, bon, c'est des sportifs, ils sont en survêt, etc. Mais surtout, c'est le discours qui est tenu par ces garçons, on sent déjà qu'ils ont un devoir de réserve strict. Tout ce qui se passe au club ne sort pas à l'extérieur. Ça, c'est clair et net. On ne peut rien en tirer, même s'ils côtoient parfois pour certains entraînements des professionnels. Tout ce qui se passe au club reste au club. Bon. Ensuite, ils ont un discours, une façon de parler, même une tonalité qui est identique d'un gars à un autre. Comme s'ils étaient tous formatés de la même façon. Mais et ça m'a frappé.
C'est le principe de la socialisation. C'est-à-dire que ça nous arrive pratiquement à tous. Quand on est confronté à des groupes ou à des moments de notre vie, on va rencontrer des gens avec qui on va passer du temps, avec qui on va finalement s'identifier aussi. On va prendre des façons de parler qui vont être... Moi, je vois ça à l'université, par exemple. Il y a des choses très intéressantes. C'est quand on voit, par exemple, des étudiants qui font une recherche, qui vont prendre les tics de langage de leur directeur ou de leur directrice de recherche, qui vont se comporter de la même façon, qui vont prendre... Alors, ils sont complètement différents, a priori, mais il y a une forme de socialisation qui fait qu'on va, s'approprier des façons de faire, des façons de communiquer. Et dans le foot, notamment dans le foot professionnel, dans les centres de formation, c'est vrai que ce sont des mondes clos. Ce sont des mondes clos qui sont très compliqués parce que ce sont des mondes clos qui sont finalisés par la performance. Donc tous les autres sont des concurrents. Et en même temps, on est amené, des concurrents et qui feront tout pour nous éliminer, hein, ça fait partie du jeu. Et en même temps, on est obligé de se fondre dans le moule et de faire comme tout le monde, de pas trop sortir du moule. Ceux qui sortent du moule ont des problèmes. Ils posent des problèmes et ils posent des problèmes, y compris aux entraîneurs, y compris aux dirigeants, etc. Donc, les centres de formation professionnelle sont effectivement des appareils à former, non pas seulement des footballeurs, mais des gens qui vont avoir un certain type de représentation, de symbolique, de valeur en commun, notamment, et on revient à notre sujet, en matière de sexisme et d'homophobie. Parce que c'est une façon aussi de se montrer en tant qu'homme, de s'affirmer en tant qu'homme, et il est assez intéressant, il y a peu de travaux, mais j'ai vu quand même quelques interviews, notamment je pense à une émission de Canal+, qui avait interviewé des jeunes d'un centre de formation de l'Est de la France. On voyait bien que c'était impensable pour eux l'idée qu'un joueur puisse être homosexuel. C'est-à-dire que c'est tellement en rupture avec leur représentation que c'est du domaine de l'impensable. Et par conséquent, tout ce qui va permettre de montrer aux autres qu'on ne peut pas être soupçonné d'homosexualité, ben ça va être utilisé. Le langage, les blagues, tout le rapport aux filles qui fait que on va aussi montrer qu'on est un vrai homme en étant performant avec les filles, etc., etc. Puis avec les voitures. Bon. Il y a toute cette culture finalement d'affirmation virile qui est entretenue dans les centres de formation, mais parce qu'on est dans des mondes d'hommes et des mondes d'hommes qui en plus ont cette exigence de se montrer performant.
Donc on peut dire que, alors, effectivement, on entend souvent dire, de la part des footballeurs, l'homosexualité, ça n'existe pas. Ou pire, il n'y a pas d'homophobie dans le football, puisqu'il n'y a pas d'homosexuel. Mais alors, un homosexuel, un jeune garçon, ou même une jeune fille, donc, qui voudrait pratiquer ce sport, de lui-même se retrancherait de faire un sport-étude, par exemple, dans le foot, parce qu'il est homosexuel et qu'il devrait se conformer à l'image, ou alors il est prêt, à ce moment-là, à se conformer à l'image qu'on attend de lui et à mettre un masque, à jeter un masque sur lui.
Alors, chacun réagit avec avec son histoire. Et son histoire, elle est aussi liée à la façon dont l'homosexualité est construite, par exemple dans la famille, dans le quartier, avec les amis, etc. Ce que je dis là, c'est pas une généralité. Je dis ça par rapport à quelques personnes qui m'en ont parlé. Donc c'est pas une généralité, c'est quelques personnes, c'est quelques individus. Quelques homosexuels qui ont joué au foot longtemps et qui ont continué longtemps et qui ont pu atteindre un bon niveau, sans être professionnels, mais qui ont atteint un bon niveau. Et qui disent que leur façon à eux de se protéger, parce qu'on ne savait pas qu'ils étaient homosexuels, c'était d'être aussi homophobe, voire plus homophobe que les autres. Dans les propos, dans les blagues, dans les remarques, dans les insultes à l'adversaire, etc. Et donc c'était quelque chose qui était vraiment un masque. Et ils le construisent comme ça. Et a posteriori, parfois c'est même un masque qu'ils ont du mal à accepter aujourd'hui en disant « Mais ouais, en fait, je ne savais pas comment faire et j'aurais jamais dû agir comme ça, mais je ne pouvais pas faire autrement. »
C'est la seule stratégie, en fait.
Voilà, c'est une stratégie de protection. Et ça, c'est quand même assez caractéristique du sport. Parce que, et c'est l'idée qu'on va essayer de discuter, l'idée, c'est de se dire « Qu'est-ce que l'homophobie vient faire dans... ?» Parce que le racisme, par exemple, on considère qu'aujourd'hui, dès qu'il y a des propos racistes, immédiatement, tout le monde va être réactif. Or, c'est pas le cas pour l'homophobie. Et peut-être parce que l'homophobie joue un rôle, assure une fonction d'éducation, assure une fonction éducative, en apprenant à tous ces jeunes, filles ou garçons d'ailleurs, mais plutôt garçons, en leur apprenant, enfin, en leur faisant apprendre, en leur faisant intérioriser ce qu'ils ne doivent pas être. Et donc, ça construit une figure négative. En apprenant aux jeunes garçons, enfin, en rappelant aux jeunes garçons sans arrêt tous les matchs, tous les entraînements qu'il faut qu'ils montrent qu'ils ne sont pas des PD, ben, ils ont compris qu'il fallait le montrer. Et à partir de là, ils ont compris aussi que si jamais ils le sont ou ils sentent des orientations sexuelles ou des tendances, voire même une affection un petit peu proche, ils vont apprendre à le combattre aussi. C'est une partie d'eux-mêmes vers laquelle ils ne peuvent pas aller. Donc c'est très compliqué, c'est un petit peu là-dessus qu'on veut travailler, c'est est-ce qu'on peut innover pour éduquer ? Est-ce que le fait de prendre cette construction négative pour éduquer les gens, on peut pas s'en affranchir en fait. On peut pas éduquer les gens sans leur dire qu'ils ne doivent pas être ceci ou cela. Et leur dire, va plutôt là où tu as envie d'aller, plutôt que de leur dire ben, ne sois surtout pas comme ceci ou comme ça ou comme cela. Donc voilà, on va travailler là-dessus en essayant de penser des axes d'innovation, et on va essayer de faire des propositions pour lutter contre l'homophobie dans le football. Alors pas seulement des propositions sanctions, et là on va vraiment pas être là-dessus. On va essayer de réfléchir à la manière de travailler sur l'homophobie sans mettre des cartons rouges à l'homophobie partout, ce qui est un petit peu la mode.
D'accord. Alors, c'est vrai que, par exemple, je pense encore une fois à l'Olympique Lyonnais. Je pense à Aulas, qui, à l'époque, justement, où il y avait, où Paris Foot Gay avait demandé des chartes à des clubs. Aulas avait dit, non, moi, je ne signe pas de charte contre l'homophobie. Je préfère signer une charte contre toutes les discriminations. C'est une façon un peu aussi de noyer le poisson, peut-être. Est-ce que de la part du monde du football, il y a vraiment une volonté éducative? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une prise de conscience, ne serait-ce qu'une prise de conscience, malgré toutes les alarmes, toutes les alertes que vous ou d'autres peuvent tirer, je dirais. Est-ce qu'eux se rendent compte de tout ceci?
De ce que je peux en dire, de ce que je connais, parce que là aussi, je ne peux pas parler pour tous les footballeurs, tous les dirigeants de clubs, etc., que je ne connais pas tous d'ailleurs. Je ne peux m'appuyer que sur les prises de parole publiques, etc., ou alors des rencontres que j'ai pu faire avec des dirigeants quand on fait par exemple des débats, des colloques ou des réunions. Bon. Je crois vraiment que d'abord c'est pas un problème pour la majorité des dirigeants. Ils ne voient pas où est le problème.
Ouais.
Deuxièmement, ça les met très mal à l'aise. Ils savent pas trop comment gérer ça. Et puis, c'est vrai que le fait de dire ben, on lutte contre toutes les discriminations, du coup, on fait rien. Et par exemple, le président Aulas, qui dit qu'il lutte contre toutes les discriminations, je me demande, par exemple, comment il peut regarder les filles de l'OL qui gagnent 3 fois la Coupe d'Europe et continuer à les payer des dizaines de fois moins que des joueurs qui n'ont jamais gagné, qui n'ont même jamais fait une finale de Coupe d'Europe, il me semble. Alors, à travail égal, salaire égal, ouais. Pas de discrimination. Ben si, là, en fait, le club est organisé sur une discrimination majeure entre les hommes et les femmes. Donc, on lutte pas contre toutes les discriminations comme ça en général. On lutte précisément, de façon factuelle, contre des discriminations qu'on a identifiées. Et à partir de là, on peut travailler. Et effectivement, c'est une façon de se dédouaner, c'est une façon de se mettre à distance, même si, en même temps, ça ne me pose pas de problème qu'on ait quelqu'un qui dise travailler contre les discriminations, par exemple l'ancienne ALDE, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui était bien les discriminations, ou le Défenseur des droits, qui travaille sur les discriminations. Mais il n'empêche que, tout en étant sur toutes les discriminations, ils sont attentifs à chacune d'entre elles, et l'idéal étant d'être réactif, et aussi réactif à chacune d'entre elles. Là, je ne le sens pas vraiment. Et c'est vrai que je pense à une action qui avait été faite avec des lacets arc-en-ciel. Lacets arc-en-ciel, c'était pour lutter contre l'homophobie. Finalement, pour que les joueurs acceptent, on a dit c'est pour les discriminations. Donc là, tout le monde est content. Et puis, c'est les discriminations, ça ne veut rien dire en fait.
Ouais. Bon, alors, on va rappeler en tout cas les dates. Déjà, c'est le 15, donc c'est mercredi 15.
Mercredi 15 et jeudi 16 sur le campus de la Doua à l'UFR STAPS.
Ouais.
Et donc, c'est, si vous venez en tram, c'est Université Lyon 1. Si vous venez en voiture, c'est un peu galère. Mais vous mettez le GPS, c'est 27-29 boulevard du 11 novembre à Villeurbanne. Voilà. Et puis, donc, vous pouvez trouver, il y a une page Facebook, colloque, sport, discrimination, homophobie. Il y a le site du laboratoire Elvis, laboratoire vulnérabilité, innovation dans le sport, où vous avez les informations. Vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. En s'inscrivant, ça nous permet de voir un petit peu qui viendra pour organiser. Mais, ce sera très sympathique.
Très bien, alors en tout cas, on sera au rendez-vous. Je remettrai toutes les informations sur la page Facebook de l'émission, sur le site également de Pluriel Gay. Je voulais juste, avant de terminer, de conclure l'émission, rappeler deux petits événements, même deux gros événements, on va dire. Hein. Demain commence le festival You Humour à Montier-Bernardo. J'ai passé l'intention d'y aller. C'est au Radiant. Radiant à Caluire, et demain notamment se produisent Shirley Soignon, donc nous avons réentendu l'interview la semaine dernière dans le cadre du festival Comic Out, mais aussi notre petit Jeffrey Jordan, notre chroniqueur tant aimé, Et puis c'est du 9, le 9 et le 10, hein, le Festival Humour. Et puis j'ai aussi un petit clin d'œil à faire au comité, au collectif, ça y est, éventué, si je dis encore comité, collectif lesbien lyonnais, qui organise, donc, qui, il y a l'inauguration, c'est samedi, au centre LGBTI, d'une exposition sur Frida Kahlo, mais je mettrai beaucoup plus d'informations sur la page Facebook, encore une fois, et le site internet de l'émission. Donc, sport, discrimination, homophobie, 15 et 16 juin, à la Doua, je remettrai toutes les informations. Philippe Yotard, ici présent, animera les ateliers et interviendra aussi sur certains thèmes. On espérera, en tout cas, que les choses continueront à bouger un petit peu. Il est vrai qu'il y a très peu, très très peu de... Pour revenir au football, l'Euro va commencer de footballeurs qui ont fait, comme on dit, leur coming out. Et ça s'est souvent produit après leur carrière, en général.
Oui. Ouais. Il n'y a pas de footballeur homosexuel en France. Il n'y en a qu'un, je crois, enfin, par rapport à ce qu'on a pu lire. Mais bon, dans le sport professionnel, bien évidemment, il n'y a pas de coming out. Et ouais, c'est sans doute peut-être une des choses qui rend les gens aussi craintifs vis-à-vis du fait de simplement vivre son homosexualité.
Oui, je pense aussi quand même à des... On parle parfois aussi de rumeurs. Alors, les supporters aiment bien colporter des rumeurs. On pense à Cristiano Ronaldo. Mais bon, il y en a beaucoup qui aimeraient qu'il soit gay, je pense, aussi, vu la plastique du personnage en question. Mais il y a aussi... je ne sais pas si c'est à lui que vous faisiez allusion, mais à Johan Gourcuff, qui était à Lyon.
Et... Je ne fais pas d'allusion.
Voilà.
Je ne fais aucune allusion à aucun joueur à partir du moment où... là aussi, c'est... Il n'y a rien de pire, il me semble, que les rumeurs cherchent à traquer quelqu'un et qui peuvent aller jusqu'au suicide.
Ouais.
Donc c'est des choses qui sont pour moi assez horribes. Le fait de se dire est-ce que un tel ou un tel est homosexuel et Gourcuff, ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur atypique. C'est un joueur atypique dans son comportement, dans sa relation. Et justement, il échappe, parce qu'on disait tout à l'heure, il échappe à ce moule du centre de formation qui fait que tous les jeunes sortent à peu près pareil, en pensant les mêmes choses, en ayant envie d'avoir une belle voiture, une belle femme, une belle maison et un chien. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu... c'est un joueur décalé et c'est pas surprenant qu'il soit objet de rumeurs. Par exemple, on va pas suspecter Zlatan Ibrahimovic d'être homosexuel. Mais peut-être que si quelqu'un comme Zlatan était homosexuel, ça mettra en cause un certain nombre d'idées reçues aussi.
Ben,
donc là, les choses...
Un choc planétaire.
Mais c'est ce qui s'est passé en rugby avec Gareth Thomas, qui était un des meilleurs défenseurs du monde, un des plus solides, un des plus rugueux, un des plus virils dans ses contacts. Eh ben, après sa carrière, il a annoncé qu'il était homosexuel et qu'il n'a pas pu pendant 15 ans en parler parce que c'était trop difficile pour lui.
Oui, c'est vrai que ça reste en football très compliqué, peut-être plus que dans d'autres sports effectivement. Et je voudrais quand même parler d'Olivier Rouillet, qui est un des rares après sa carrière sportive,
oui,
qui a quand même été sélectionné en équipe de France aussi. Qui
avec était, Michel Platini, bien sûr.
Voilà, qui est l'ami, le compère de Michel Platini, effectivement, notamment à Nancy, lorsqu'ils jouaient tous les deux à Nancy. Olivier Rouillet est un des rares à parler ouvertement maintenant de son homosexualité, oui. Mais encore une fois, il a attendu la fin de sa carrière pour pouvoir...
Il doit avoir 55 ans, voilà. Il est commentateur à Canal+, c'est quelqu'un qui a aussi... il est dans une position qui lui permet peut-être plus facilement que d'autres, parce que là aussi, c'est difficile. Je suis toujours mesuré par rapport aux gens qui donnent des leçons en disant il faut voir aussi quelles sont les conséquences quand on est aussi exposé qu'un footballeur professionnel. Parce qu'un footballeur de quartier, on est avec les copains, on peut se dire que les amis, et ce sera toujours les amis. Dans le monde professionnel, il n'y a pas vraiment d'amis, et d'une. Et deuxièmement, il y a les journalistes, il y a les supporters, et puis il y a tous les abrutis qui circulent dans la rue, qui peuvent vous reconnaître, et puis vous se mettre à vous tomber dessus simplement par bêtise.
Sans parler du sponsoring, où on peut dire attention...
Oui. On n'a pas de cas en France, mais aux États-Unis, il y a un certain nombre d'athlètes qui ont perdu leur sponsor. Après avoir annoncé leur homosexualité, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a Adidas qui a fait une campagne, je crois que c'est... Alors, je vais pas donner le nom, je sais pas si c'est Adidas ou Nike, je sais plus.
Il semble que c'est Nike.
Mais il me semble qu'il y a un équipementier sportif, un grand équipementier, qui a annoncé son soutien aux athlètes, aux sportifs qui déclareraient leur homosexualité.
Pour terminer, il va vraiment falloir finir puisque l'émission touche vraiment à sa fin. Moi, je vais être curieux, très attentif en 2018, et je pense que vous aussi, de la façon dont les médias vont traiter les Gay Games.
Ah, bien sûr. Mais oui.
Notamment les émissions sportives. Vont-ils en parler ? Y aura-t-il des éditions spéciales Gay Games ?
Ah, je ne sais pas. Là, je ne sais pas.
Non, mais on pourrait rêver. On peut toujours rêver.
Écoutez, est-ce que vous avez entendu parler de la victoire de la France en Coupe du Monde de football la semaine dernière ?
La victoire de
l'équipe de France de football la semaine dernière. Ah, on a une équipe de France de football championne du monde.
Ouais, non.
C'est l'équipe de France de football militaire femme.
Ah oui. Non, pas du tout, c'est vrai.
Voilà, donc les games, on verra. Mais...
Je réfléchissais, mais vous avez quelque chose qui m'a échappé, là. Merci, en tout cas, d'être venu, Philippe.
Et merci Philippe à vous de m'avoir invité.
À très bientôt et bonne chance, bon succès, en tout cas, pour le colloque de la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Au revoir. Salut, mon Bernardo.
Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.